Chapitre 19. La deuxième moitié du parcours entre les premiers et deuxièmes ressauts fut aussi aléatoire et effrayante que la première. Une série de soulèvements irréguliers, de rochers glissants et de pics de neige rendant la ligne de crête impraticable, le diacre, à la tête de la cordée qui nous reliait tous, ouvrit une voie à environ 3 mètres en dessous de cette arête venteuse surplombant la face nord et le grand couloir du côté du glacier du Rongbuck Est. Le précipice paraissait de plus en plus vertigineux. Et chaque fois que le diacre avançait d'un pas et que la neige s'affaissait sous lui, avant de former une plateforme instable tout juste capable d'arrêter sa glissade, nous retenions notre souffle. Aucun de nous ne pouvait offrir de relais efficace. Nous ne jetâmes aucun coup d'œil derrière nous pour surveiller la progression des Allemands, mais nous sentions leur haleine dans nos nuques froides. La dernière fois que J.C. avait regardé dans ses jumelles, pendant que nous autres préparions Percy et Kurt Meyer pour leurs obsèques, le grimpeur de tête, nous pensions toujours qu'il s'agissait de Bruno Siegel, avait réussi à franchir la colonne aveugle et fixait des cordes pour ses 4 camarades. Manifestement, Siegel était le meilleur alpiniste du lot, et nous nous réjouissions que les autres le ralentissent, ne serait-ce qu'un peu. Mais pas suffisamment. Puis J.C. était revenu vers nous, et nous nous étions recueillis un instant devant les dépouilles de Meyer et de Bromley. Reggie avait dit une prière, et j'avais été surpris d'entendre le diacre prononcer les mots avec elle. Des années plus tard, en consultant les prières des services funèbres anglicans, je me rendis compte que Reggie avait fait quelques modifications, mais le diacre avait dû répéter ces phrases si souvent pour des camarades tombés au champ d'honneur, qu'il suivit facilement malgré les ellipses et adaptations de notre ami. Cette prière me parut juste, quoique un peu trop longue, pensais-je, sachant que les Allemands gravissaient la face nord, alors que nous étions assis là, devant les 2 corps disposés sur le petit éperon rocheux, au-dessus du bord septentrional de la pique. Reggie avait déplié son petit mouchoir en soie vert et or, portant les armoiries des Bromley, et l'avait noué autour du visage de son cousin. Celui de Kurt Meyer était à présent recouvert d'un mouchoir blanc sorti de la poche du diacre. Reggie baissa la tête et commença.
Je lève les yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Le secours me vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde la gloire de ce monde, de haute montagne. Le Seigneur est celui qui te garde. Le Seigneur est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te brûlera pas, ni la lune pendant la nuit. Le Seigneur te gardera de tout mal. C'est lui qui préservera ton âme. Le Seigneur gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. C'est ainsi que nous recommandons au Seigneur Tout-Puissant les âmes de nos frères ici disparus, nos frères de cordée et des hautes altitudes, Percival Bromley et Kurt Meyer, et nous rendons leur corps à la terre, à l'air et à la glace, dans la certitude et l'espoir de la résurrection et de la vie éternelle, par la foi de Percival en son Seigneur Jésus-Christ, et par l'amour de Kurt Meyer pour le Seigneur Dieu Yahvé, à l'avènement duquel, dans la majesté glorieuse, pour juger le monde, la terre, la mer et ses hautes cimes rendront leur mort. Nous n'avons rien à porter dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Le Seigneur a donné et le Seigneur a pris. Béni soit le nom du Seigneur. Amen.
Nous répétâmes Amen, puis Jean-Claude, Passang et moi poussâmes les bottes des 2 hommes, jusqu'à les voir basculer du bord de l'éperon et dégringoler en tournoyant pour aller se fracasser en silence quelque part sur le glacier du Kangchung. Plus de 3 kilomètres plus bas. Aucun de nous ne regarda tomber les corps. Sans perdre de temps, nous refîmes nos sacs à dos. Je vis Reggie fourrer son enveloppe de photos dans une poche de sa veste intérieure. Nous nous étions distribués les copies avant la prière, et je glissai la mienne dans un endroit sûr contre le dos de mon sac. Puis nous récupérâmes nos piolets et nous mîmes en route vers le 2e ressaut. Le soleil nous avait réchauffés quand nous nous étions assis un instant du côté est du champignon de pierre, Mais dès que nous quittâmes l'arête pour la traverser sur la face nord, le vent qui soufflait sur des kilomètres de neige et de glace aspira toute notre chaleur. Nous devions continuer de bouger sous peine de geler. Aucun ne parla avant que nous fussions remontés sur la ligne de crête au pied du deuxième ressaut. L'obstacle était terrifiant à regarder, même sans la certitude que des Allemands à la gâchette facile surgiraient bientôt derrière nous.
« Si vous arrivez là-haut, Jake, » dit le diacre après avoir abaissé son masque à oxygène. « Enfin, quand vous arriverez là-haut, sa surface plate avec ses gros blocs de roche constituera une parfaite position défensive, même pour une armée équipée seulement de pistolets Very. »
Je levai les yeux vers la pente de neige abrupte qui montait jusqu'à un impossible amas de rochers débouchant sur une paroi verticale. « Parle-lui de l'obstruction dans ta gorge, de tes difficultés à respirer », m'exhorta la partie oxygénée de mon cerveau moribond. « Il assumera ses responsabilités et escaladera lui-même ce putain de truc. Ou alors Jean-Claude n'a qu'à s'en charger. Merde ! À l'instant présent, même Reggie et Passang sont de meilleurs rochassiers que toi, Jake Perry. »«
Ouais, un vrai fort à l'amo, » dis-je.
« C'est quoi ? Un fort à l'amo ?»
demanda J.C. Il paraissait bien trop guilleré pour les circonstances. Comme je m'étais remis à tousser, Reggie lui résuma en quatre phrases succinctes l'histoire du siège de Fort Alamo.
« Une glorieuse bataille, apparemment !»
commenta J.C.
« Comment s'est-elle terminée ?»
Je soupirai.
« Les Mexicains ont envahi le fort et massacré tous les assiégés. »
répondis-je entre deux accès de toux.
Parmi lesquels mes héros, Davy Crockett et son copain Jim Bowie, celui qui a inventé le couteau porton son nom.
Ah,
dit Jean-Claude, puis il sourit.
Dans ce cas, remercions Dieu de n'avoir affronté que des Allemands et pas des Mexicains.
J'étais en train de retirer ma veste Shackleton, mes épaisseurs de duvet d'oie et mes deux paires de moufles pour ne garder que mes fins gants de soie. Nous avions escaladé en crampons aussi haut que possible sur la pente neigeuse jusqu'au pied du deuxième ressaut. Examinions maintenant la paroi à la recherche d'une voie possible. La falaise mesurait presque 30 mètres et les grandes dalles qui la constituaient semblaient infranchissables. Mais il y avait une fissure, ou plutôt une diaclase, sur la gauche de sa masse centrale. J'avais remonté mes lunettes pour mieux voir. Le problème, comme on qualifie avec coquetterie des défis mortels dans les cercles d'alpinistes, était tout bonnement trop dur à résoudre, surtout à cette altitude, et surtout pour un homme ayant des éclats de verre dans la gorge. Tout le deuxième ressaut était constitué d'amalgames de rochers qui s'érodaient beaucoup plus lentement que le schiste et autres pierres en dessous. Les 10 premiers mètres de la paroi seraient sans doute franchissables, parce qu'il y avait des amoncellements de blocs et des extrusions de roches et de plus petites fissures. Une rainure entre le plus gros de ces blocs et la paroi orientée vers l'est serait utilisable, avec une technique d'escalade parfaite et une bonne réserve d'énergie, mais je devrais faire un écart et me tenir en équilibre sur ce fichu bloc avant d'attaquer la deuxième section de cette ascension en trois parties. Cette première section seule aurait constitué un défi amusant pour un après-midi de varap près de Penny Pass au Pays de Galles, mais je n'imaginais même pas la quantité d'énergie qu'elle exigerait à 8610 mètres d'altitude. Je n'en continuais pas moins d'examiner la paroi en tentant de déterminer la meilleure voie. S'il existait une meilleure voie. Aucun des deux rochassiers à côté de moi n'interrompit ma réflexion. À mon avis, ni J.C. ni le diacre ne trouvaient de solution non plus. De ce gros bloc, 9 mètres plus haut, il faudrait monter une haute et dangereuse marche pour arriver sur une bande de neige abrupte, ou plutôt un cône de neige abrupte. Et la traverser pour rejoindre la fissure centrale où la falaise rejoignait la face presque à angle droit. Dieu seul savait si ce cône de neige tiendrait le coup ou glisserait sous mon poids et m'entraînerait dans sa chute. Ensuite, si je réussissais à atteindre un point plus élevé dans la fissure centrale, je devrais apprendre à léviter comme un saint bouddhiste pour parvenir à la base de cette dernière et encore plus difficile troisième section de l'ascension. La fissure n'était pas suffisamment large pour que je puisse y glisser mon corps. Tout juste pouvais-je y loger le plat de la main dans la plus grande partie de sa longueur. Une autre faille, plus petite, montait en arborescence à des angles probablement inutilisables à partir du point où il faudrait sauter de la bande de neige. Cette dernière partie de l'ascension était mortelle, au sens propre du terme. Elle serait classée dans la catégorie extrêmement difficile, quelle que soit l'échelle de cotation utilisée. À l'heure où j'écris, au printemps 1991, elle serait évaluée entre 5,9 et 5,10 dans la classification américaine, c'est-à-dire requérant non seulement une grande expertise, mais aussi un engagement total. Un engagement total ou un simple désir de mort. Et encore, cette classification était-elle entendue pour une escalade au niveau de la mer? Qu'en était-il à 8600 mètres d'altitude? Comment aurais-je pu dire à mes compagnons cette simple phrase « Je n'en suis pas capable ». Pas seulement parce que je ne faisais passer qu'un tiers de la quantité d'air dont j'avais besoin dans ma gorge obstruée et douloureuse et mon système respiratoire gelé, mais parce que je n'aurais pas été foutu de résoudre le problème de ces 6 derniers mètres un jour d'été dans le Massachusetts si la paroi avait été à 3 mètres du sol avec des matelas disposés tout autour. Personne n'en était capable. En cet instant, j'étais certain que George Leif Mallory n'aurait pas pu réussir, qu'il ne l'avait pas fait. J'étais sûr que Mallory et Irvine avaient examiné la paroi et fait demi-tour, ici, au deuxième ressaut. Quelle que soit la raison pour laquelle ils avaient dû descendre les vires de pierre sous la bande jaune après la nuit tombée, ce n'était sûrement pas l'ascension puis la descente du deuxième ressaut qui les avait retardés. C'était impossible. « Comment voyez-vous les choses, mon ami ?» me demanda Jean-Claude. Je toussais et m'éclaircis la gorge.
« Je vais partir du haut de la pyramide de neige, » dis-je, « à 2 ou 3 mètres de la face et de la grande fissure. Escalader les blocs jusqu'au gros du milieu, puis effectuer un jeté pour atterrir sur la bande de neige. » J'essaierai ensuite de retraverser jusqu'à la fissure centrale, que j'utiliserai avec les autres fractures, là-haut, pour atteindre l'endroit vertical. Et là, eh bien, j'aviserai.
Ma tirade était beaucoup moins assurée qu'elle ne le paraît, ainsi rapportée. J'avais dû m'interrompre 3 fois pour tousser et me plier en 2 lors des derniers spasmes.
« Je suis d'accord sur la voie, » dit le diacre. « Mais vous sentez-vous d'attaque pour y aller, Jake? Votre toux est épouvantable et ne cesse d'empirer. Je serai heureux d'essayer. »
Je sentis que je secouais la tête. Jusqu'à ce jour, je ne sais toujours pas si je disais « Bon Dieu, non, je ne me sens absolument pas d'attaque pour faire cette impossible escalade libre, ni pour mourir », ou si j'insistais au contraire pour me lancer. Mes amis choisirent la seconde interprétation. Je ne portais plus à présent que ma veste Norfolk, mon pantalon de laine et mes fins gants de soie, ayant fourré tout le reste dans mon sac à dos. J'avais enfoncé mon bonnet de laine sur mon casque en cuir, au point qu'il recouvrait les lunettes que j'avais remontées sur mon front. Durant cette escalade, l'escalade suprême, je devais pouvoir voir mes pieds. Le masque à oxygène et les lunettes réduisaient mon champ de vision et créaient une trop grande distance entre le monde et moi. Je grimperais donc sans sac, sans oxygène, sans masque et sans piolet. Je n'aurais rien sur le dos qui risquerait de me faire perdre l'équilibre. Je garderai les crampons parce que je m'étais habitué à escalader les rochers avec. Mais pour le reste, rien ne devait entraver mon contact avec la roche. Rien, excepté la maladie, l'épuisement et cette peur presque paralysante.
« Savez, »
dis-je au diacre et à Reggie sur un ton presque décontracté, L'effet fut cependant ruiné par ma toux et mes reniflements.
Et j'ai pensé à un moyen qui nous permettrait à tous de nous en sortir sans perte humaine supplémentaire de part et d'autre.
Tous deux haussèrent un sourcil et attendirent.
Je pourrais brandir un drapeau blanc quand Seagull et ses hommes arriveront. Et aller leur donner les photos. Et peut-être même les négatifs.
Pardon ? S'exclama Jean-Claude. Il paraissait choqué et déçu.
Mais nous ne leur donnerions que 4 enveloppes. Et cacherions la 5e quelque part. Dans une de ces fissures.
M'empressai-je d'ajouter, pour autant qu'on pût se presser quand on avait si peu d'oxygène.
On s'en garderait une série, vous voyez.
Et vous donneriez les négatifs aux Allemands ?
Demanda Reggie. Je ne sus comment interpréter son expression. Je haussai les épaules, ce qui était plus facile sans mon anorak en duvet. Mais je me refroidissais vite.
J'en connais assez en photographie pour savoir qu'on peut obtenir de nouveaux négatifs à partir des tirages, des duplicata,
dis-je, comme s'il s'agissait d'une idée en passant et pas d'un sujet crucial.
De cette façon, Siegel et ses acolytes considéreront qu'ils ont rempli leur mission, et nous resterons en vie avec les 7 photos à partager avec... Eh bien, votre homme mystère, celui qui adore les chèques et l'or, les Allemands n'auront plus aucune raison de nous tuer s'ils obtiennent ce qu'ils veulent. Ce qu'ils sont venus chercher 2 années de suite.
Le diacre secoua la tête, tristement, trouvai-je.
Ils nous tueraient quoi qu'il arrive, Jake. Même s'ils pensaient avoir récupéré toutes les photos.
N'oubliez pas qu'ils ont assassiné tous nos Sherpas cette année, après avoir tué Lord Bromley et ce jeune Autrichien l'année dernière. Ils ne prendraient pas le risque qu'on ébruite l'affaire en nous laissant la vie sauve.
Et les Boches n'ont pas besoin de raison pour tuer, ajouta Jean-Claude. C'est dans leur nature.
Je fis oui de la tête comme si j'avais compris ça tout seul. Et j'aurais fini par comprendre, du moins en ce qui concernait les arguments du diacre. Pour l'heure, mon cerveau était encore sur les fissures, les failles, les blocs, les champs de neige et la face abrupte dressée devant moi, et il n'aimait pas du tout y être.
Mais utiliser des photos pareilles !
Je sentais que je devais le dire, même si c'était les derniers mots que je prononçais. Je regardais mes 4 compagnons.
Même pour gagner une guerre ou préserver la paix, et ce ne sont que des conjectures aujourd'hui. Utiliser ces photos, ce genre de choses, pour faire chanter quelqu'un, ce ne serait pas, enfin, ce ne pourrait pas être honorable.
Pendant 1 minute, on n'entendit plus que le vent entre les rochers et la falaise. Puis le diacre reprit.
Si des Allemands comme Herr Siegel et ses amis prennent le pouvoir, Jake, il y aura une nouvelle guerre. C'est inévitable. Et il n'y a rien d'honorable dans la guerre. Rien. Je sais de quoi je parle. La seule façon de préserver un minimum d'honneur quand la guerre menace, c'est d'éviter le combat. Et des gens plus intelligents que vous et moi estiment que ces photos obscènes, ignobles, pourraient y contribuer. Une fois les hostilités déclenchées, on peut seulement tenter de rester digne malgré la peur qui nous tenaille à chaque seconde, et faire tout ce qu'on peut pour préserver la vie de nos hommes.
C'est ce que vous avez fait pendant 4 ans, Richard, dit J.C. Vous avez œuvré à préserver la vie de vos hommes. C'est ce que vous continuez à faire ici, sur cette montagne.
Étonnamment, le diacre lâcha un éclat de rire sans joie.
Mon cher ami, dit-il en effleurant l'épaule de J.C. « Mes chers amis !»
Il remonta ses lunettes pour nous regarder les uns après les autres, et le vent froid fit aussitôt monter des larmes à ses yeux gris.
« Mes amis, J'ai échoué lamentablement à préserver la vie de mes soldats. Je n'ai même pas réussi à protéger nos 30 Sherpas durant cette expédition en temps de paix. Ils étaient sous mon commandement dans cette montagne. La plupart d'entre eux sont morts. Mon Dieu, je me suis même fait voler ma carabine. Si tous les hommes respectables que j'ai tués ou contribué à faire tuer pendant la Grande Guerre devaient venir ici, ils formeraient une ligne de Darjeeling jusqu'au sommet de l'Everest. Il se tut. Bon, dis-je, quand j'en eus assez du vent et du silence. Je ferais mieux d'y aller avant de geler sur place. C'est un point de relais correct. Je resterai donc encordé jusqu'à ce que j'arrive en haut à gauche de cette bande de neige, à environ 14 mètres. L'un d'entre vous pourrait monter et m'assurer à partir de là. J'aménagerai une petite plateforme de neige si nécessaire. Quoique, non. L'endroit n'est pas sûr pour un relais. Si je tombe de la paroi, j'entraînerai aussitôt le relayeur. J'aiderai plutôt l'un de vous à monter jusque-là avec des cordes fixes. Et j'escaladerai ensuite sans m'encorder. Pour que quelqu'un d'autre puisse essayer si je tombe. Je vous suivrai là-haut quand vous aurez trouvé un relais sur les blocs, dit le diacre. Jean-Claude était penché au-dessus du bord de la face nord, examinant nos empreintes de pas avec ses jumelles. « Les Allemands montent vers le champignon, » dit-il dans le vent. « Nous devons nous dépêcher si nous voulons atteindre notre fort à la Alamo à temps. »